marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
Les grands travaux des présidents.
J'ai réalisé d'abord les grands projets hérités de mon prédécesseur. J'ai entrepris d'autres grands projets.
Le Grand Louvre, par exemple.
Je citerai l'Arche à la Défense ou le Grand Louvre. Ce ne sont pas d'ailleurs les seuls travaux que j'ai engagés.
Et là, vous n'avez pas dans votre corbeille, de mariage avec les Français, vous n'avez pas quelques autres idées, puisque vous restez 7 ans, vous n'avez pas encore mettre des pierres les unes sur les autres?
Oui, j'ai de grands projets, je vais vous en donner un.
Lequel?
Eh bien, je veux que soit entreprise la construction et l'aménagement de l'une des ou de la plus grande et de la plus moderne bibliothèque du monde.
Débutant son second mandat en 1988, François Mitterrand n'avait rien retranché dans sa politique de grands travaux en annonçant un nouveau chantier, la BNF, devant Yves Bourouzi Esbobi. Il prenait soin néanmoins de citer son prédécesseur. Valéry Giscard d'Estaing avait voulu un musée du 19e à Orsay, comme Georges Pompidou avait fait sortir de terre le centre d'art contemporain qui porte maintenant son nom. Plus tard, Jacques Chirac créera Quai Branly, un autre musée encore qui porte lui aussi son nom. Pour expliquer l'absence de projets comparables sous Nicolas Sarkozy et François Hollande, on a invoqué la réduction du mandat présidentiel peu propice aux aventures au long cours et bien évidemment, on a invoqué aussi la réduction des moyens de l'État. Emmanuel Macron avait l'intention d'observer la même retenue, mais le désastre de Notre-Dame de Paris lui offre une opportunité inattendue. Sa tentation est grande de signifier dans l'architecture de l'édifice que la reconstruction, comme l'incendie, ont lieu sous son règne. En conséquence, le choix est fait d'accélérer le rythme afin de permettre une éventuelle réouverture lors d'un hypothétique second mandat. Un projet de loi sera mis en débat lors d'une séance prioritaire de l'Assemblée le 10 mai. Un concours international est prévu, dont l'Élysée aura la clé. Une administration de commando ad hoc va être créée. Et il est clair qu'au ministère de la Culture, on préférerait ne voir qu'une seule tête parmi les spécialistes du patrimoine. Quand l'architecte Peille avait présenté son projet de pyramide à la Commission supérieure des monuments historiques, on avait pareillement ignoré le chahut auquel elle s'était livrée. Les circonstances permettent de relever la vieille tradition monarchique de l'intervention du prince dans le paysage urbain. La fronde et la polémique vont nécessairement l'accompagner, nous en avons pour un bon moment. La grande différence avec le passé, c'est que le financement de ce nouvel avatar des grands travaux sera assuré par les dons, ce qui peut rebattre les cartes du jeu.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Marie-Bonne de Saint-Pulgent, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Vous étiez directrice du patrimoine au moment de l'incendie du Parlement de Bretagne.
Oui.
En 1994.
Hélas, c'était une tragédie aussi.
Les ouvriers n'ont commencé à intervenir qu'en 96. Ça ne veut pas dire que vous étiez resté, c'est pas votre genre, l'arme au pied. Alors vous avez été présidente et vous êtes présidente de tant de choses. Vous soutenez qu'il y a eu une ébauche d'esquisses de grands projets, de grands travaux sous Nicolas Sarkozy?
Plus qu'une ébauche, on a créé une maison d'histoire de France qui devait s'installer dans le quadrilatère des archives. On a créé un établissement public, j'en ai été nommée présidente, ça a duré 10 mois, le temps que François Hollande, se séparant sur ce point de François Mitterrand, mette fin à ce projet.
Et maintenant, vous êtes entre autres présidente de la du comité d'histoire du ministère de la Culture. C'est un peu à ce titre que vous intervenez ici. Le centre Georges Pompidou que vous évoquiez, c'était l'affirmation de la volonté de l'État d'intervenir pour la modernité dans les arts. Et c'est le premier établissement public ad hoc qui a été créé.
Oui, on appelait ça des établissements publics constructeurs. Ça n'est pas l'établissement public actuel qui gère le musée. Il y a eu la liquidation de cet établissement, était remplacé par un établissement gestionnaire. Par la suite, on a fait des établissements constructeurs qui devenaient gestionnaires. Par exemple, le musée du Quai Branly, d'abord constructeur, l'établissement public ensuite a vu sa structure modifiée pour sa mission devenir l'établissement actuel. Mais c'est vrai que c'est le centre Pompidou qui est le modèle à la fois des grands travaux présidentiels et des établissements publics créés pour les réaliser.
L'établissement public du Grand Louvre, on va venir à lui, a été confié après une petite période de statut associatif à un haut fonctionnaire, non pas au ministre de la Culture de l'époque, et Dieu sait s'il était influent, et brillant. Jacques Lang, non, un haut fonctionnaire gaulliste qui était spécialisé dans l'aménagement. Il avait réalisé celui des côtes de l'Aquitaine et puis il avait une réputation, je ne veux pas le comparer au général Georges Lain aujourd'hui, mais de bulldozer, il s'appelait Émile Biasini. Le voici qui témoigne à voix nue avec Emmanuel Le Goyer sur France Culture.
Alors, donc un jour, Mitterrand a annoncé qu'il voulait faire le Grand Louvre, en 14 juillet 81, je crois. À partir de là, il y a eu pas mal d'intrigues auprès de lui pour désigner un tel ou un tel autre. J'avais des partisans. Et un jour, Mitterrand m'a appelé. J'ai vu Mitterrand, que je ne connaissais pas. Est-ce que vous voulez faire le Grand Louvre ? Bah, j'ai dit, écoutez, je ne sais pas bien ce que c'est, mais je suis d'accord. Bien, bah écoutez, Jacques Lang vous convoquera. La langue était mise à culture. Au revoir, etc. Ça a duré 3 minutes. J'ai attendu la convocation de Jacques Lang. Rien n'est venu pendant plusieurs mois. Lang a fini par me convoquer.
Oui, alors on va pas dire la suite tout de suite, mais Émile Biasini la raconte à sa manière dans ses mémoires. Un livre qui s'intitule « Grands travaux ». Le ministre de la Culture, il n'est jamais très fan quand il y a un établissement public qui se soustrait à son influence.
Oui, là aussi le modèle c'est Pompidou, hein, parce qu'on avait choisi pour construire le centre Pompidou un autre type de haut fonctionnaire à carrière atypique, qui était Robert Bordaz, qui s'était illustré notamment par la construction du pavillon français à l'exposition internationale de Montréal, réalisé dans des délais très courts, de façon très efficace. C'était un membre du Conseil d'État, mais enfin qui n'avait pas été beaucoup au Conseil d'État. C'était un peu ce style de haut fonctionnaire commando. Biasini, lui, venait de la France d'outre-mer, donc il savait gérer les populations locales. C'était important aussi. Et bien sûr, en plus, il avait été un directeur de Malraux. Donc il avait une légitimité très forte, à la limite un peu supérieure à celle du tout nouveau ministre qui arrivait, qui ne connaissait pas le ministère, ce qui n'était pas le cas de Biasini. On peut comprendre que le ministre se soit douté qu'il n'aurait pas beaucoup d'influence sur cet opérateur-là.
Oui, mais enfin, Jacques Lang ne va pas vraiment si résigner le projet du Louvre. Ça consiste pour l'essentiel à écarter le ministère des Finances qui occupait l'aile Rivoli, et puis à créer un accès central marqué par un signe qui remplacerait les entrées trop discrètes que le Louvre pratiquait jusque-là. Et c'est Biasini qui a l'idée de faire travailler Peille et qui soutient l'idée de la pyramide de Peille.
Oui, c'est ce qu'il a dit. On n'a pas fait l'archéologie de cette décision. Il faudrait voir comment cette idée lui vient, etc. Mais c'est vrai que alors le projet du Louvre, c'est le plus important, à mon avis, de la présidence Mitterrand, par son ampleur, par sa longueur, par les conséquences qu'il a eues sur tout le périmètre et par sa complexité. On est dans un monument historique ancien. On débarrasse une aile entière. Il faut tout restructurer. Il faut tout inventer. Et on crée une entrée en sous-sol. Donc c'est énorme comme projet. D'ailleurs, vous savez, il y a aussi eu les chantiers d'archéologie qui ont déclenché des polémiques les unes après les autres. Et pour moi, c'est le plus légitime et le plus réussi des grands projets de François Mitterrand. Pardon. Le choix de recourir à un architecte, il ne faut pas oublier qu'il y a eu deux architectes au Louvre. C'est l'architecte en chef des monuments historiques, qu'on appelait d'ailleurs les bâtiments nationaux à l'époque, qui a mené l'opération tout entière et qui s'est associé avec Peille, ça a donc été une équipe d'architectes. Alors évidemment, on ne parle que de Peille, parce que c'est lui qui a fait toute la partie neuve. Mais le chantier a été un énorme chantier patrimonial aussi.
Mais Jacques Lang, maintenant, 30 ans après, s'approprie la réussite qu'est la nouveauté de la pyramide. Alors qu'à entendre Émile Biasini, la maquette avait été préparée par lui, Biasini, en compagnie de Peille. Simplement, c'est Jacques Lang qui la présente au président de la République.
Parce qu'à l'époque, il est encore chargé des grands travaux, hein, donc c'est dans sa juridiction. Mais c'est sûr qu'il y avait une rivalité, mais ancienne, c'est pas le seul cas. Les grands établissements publics du ministère de la Culture sont pas forcément très bien avec le ministre. Pas seulement les établissements constructeurs. Il y a eu des échanges assez drôles. Par exemple, quand Christine Albanel, présidente de Versailles, est devenue ministre et que Jean-Jacques Ayagon, précédent ministre, est devenu président de Versailles. Dans les deux cas, ils s'entendaient mal, dans les deux configurations successives. Et chacun oubliait d'ailleurs sa position de président d'établissement public ou sa position de ministre dans la nouvelle configuration. Donc il y a une rivalité, évidemment. évidente parce que ce sont des établissements qui marquent beaucoup plus l'opinion, qui sont très importants sur la diplomatie. C'est le cas du Louvre qui reçoit en permanence des chefs d'État, etc. D'où le fait que le président de la République s'y intéresse beaucoup.
Et puis alors quand le ministre de la Culture, comme aujourd'hui, est moins connu que ne l'était Jacques Lang dans les années 1980, il peut se préparer à pas mal d'avanies. Quand Mitterrand entame son second mandat en 1988 et qu'il veut ajouter à ses grands travaux celui de la BNF, il nomme carrément Émile Biasini secrétaire d'État aux grands travaux. Et là, il ne dépend plus du ministère de la Culture.
Oui, avant même la création d'un ministère, il avait créé à l'Élysée une cellule spéciale sur les grands travaux. Donc, il pilotait déjà par son cabinet, la totalité des grands travaux qui ont été quand même une politique énorme sous François Mitterrand, et en fait une politique vraiment élyséenne. Et donc ça, là, il pousse le système jusqu'au bout, il crée un ministère. Alors théoriquement, ça dépend quand même du ministère de la Culture, puisque le ministre Jacques Lang est également ministre des grands travaux. Mais là aussi, la tutelle est assez difficile à exercer, s'agissant de quelqu'un...
Biasini s'adresse directement, oui, comme Georges Lain le fera au président de la République.
Voilà, c'est quelqu'un qui va voir le président, d'autant plus facilement qu'il a des relais à l'Élysée.
La liste est longue des grands travaux du premier et du deuxième septennat. On va juste retenir l'Opéra Bastille, parce que vous êtes, Marie-Yvonne de Saint-Pélagien, passionnée d'opéra et auteur d'un livre vigoureux sur le sujet. Émile Biasini rappelle perfidement que Jacques Lang en a eu la responsabilité et qu'il n'a pas eu la main heureuse dans le choix de l'architecte.
Oui, alors ça c'est un peu injuste parce que, alors moi je ne suis pas sûre que l'architecte ait été génial, mais en l'occurrence, c'est pas du tout Jacques Lang qui a choisi l'architecte. Il y a eu un concours d'architecture, il y a eu un jury, le président de la République s'en est mêlé aussi, comme dans tous les grands travaux présidentiels. Et il y a eu aussi un établissement public constructeur, où il y a eu des gens intéressants d'ailleurs à la suite. Mais le fait que Biasini dit « c'est pas moi », Jacques Lang a dit aussi que c'était pas lui, et François Mitterrand, plus remarquable, a dit « c'était pas mon idée ». Donc il y a une espèce de concours de déni sur l'Opéra Bastille, c'est la faute à personne, c'est arrivé tout seul.
Mais au moment de l'inauguration, peu après le 14 juillet 89, je veux dire en mars 1990, Jacques Lang est quand même très fier de cet opéra. Je crois que vous avez dit qu'il y a eu des gens intéressants parmi les présidents de l'établissement public. Vous visiez sans doute Pierre Berger, dont le nom va être prononcé en même temps qu'on entendra un extrait des Troyens qui ont été donnés au moment de cette ouverture.
L'événement qui va se produire dans quelques instants ici, c'est à la fois le lever des rideaux sur une nouvelle scène internationale. C'est aussi la première fois que l'œuvre de Berlioz, Les Troyens, est interprétée intégralement en France, c'est-à-dire dans le pays de Berlioz.
Georges-François Hirsch, vous êtes le maître de maison, c'est le grand jour pour vous aujourd'hui, les gens arrivent, ça commence, ça y est, il existe l'opéra.
Écoutez, quel sera le résultat de la représentation de ce soir ? Je ne suis pas Dieu, je ne peux pas le savoir, mais j'ai l'impression que le temps déjà s'annonce sous les meilleurs auspices. J'espère que la représentation sera à l'égal du temps.
Il n'y a pas de raison, tous les dieux de la Grèce sont sur scène.
Absolument, absolument. Non, vous savez, c'était les conditions un petit peu difficiles, mais c'est un très bel ouvrage. Je crois que les Parisiens vont découvrir qu'on donne pour la première fois en version intégrale à l'Opéra de Paris depuis sa création. Et je dois dire que nous sommes assez fiers d'avoir tous ensemble, parce que vraiment ça a été un travail d'équipe considérable, techniciens, artistes, direction, administration, tous ensemble nous avons mené cela jusqu'à aujourd'hui, on va voir ce que ça donnera ce soir, mais je crois que sous la baguette de Myung Woon Chung, ce sera un très très beau spectacle.
Je vous remercie, je vous laisse aller prendre votre place.
Merci.
Au revoir.
Jean Lebrun sur France Inter.
avec Marie-Yvonne de Saint-Pulgent, ancienne directrice du patrimoine et présentement, entre autres, présidente du comité d'histoire du ministère de la Culture. Mais je vous savais passionné d'art lyrique, vous recommandiez là de couper plus vite. Mais c'est in vivo cet enregistrement.
Oui,
de non, mars 90, à l'Opéra Bastille.
Il y a, vous savez, on parle des divines longueurs de Schubert, mais on pourrait aussi parler des divines longueurs de Berlioz. Quelquefois, on se dit, si c'était plus court, ce serait plus frappant.
Oui, mais là, tout le monde est fier de dire que c'est l'intégrale, de même que quand on a représenté les Troyens, là, oui. De nouveau, cette saison, on a dit que c'était l'intégrale.
C'est un problème compliqué de savoir quelle est l'intégrale réelle des Troyens, parce que ça n'a pas été produit, ça n'a pas été créé à l'Opéra de Paris, mais dans un opéra dirigé par M. Carvalho, qui était un spécialiste du charcutage des œuvres des compositeurs. Et Berlioz a longuement raconté, dans un de ses nombreux écrits sarcastiques, comment on lui avait fait renoncer petit à petit à l'essentiel de ce qui faisait son opéra dans son esprit. Donc la version réelle des Troyens est difficile à établir.
On va parler des cathédrales maintenant. Ben, la version réelle des cathédrales, elle est difficile à établir parce que les cathédrales sont faites de copies, de pastiches, de réinterprétations. Ben, c'est combien...
Des copies, non, vous allez loin. Vous allez loin. Ce sont des palimpsestes, a dit un savant collègue à moi. C'est des couches successives.
Qu'est-ce que c'est d'ailleurs une cathédrale ?
C'est le siège de l'évêque, mais les cathédrales juridiquement, celles qui appartiennent à l'État, et Notre-Dame de Paris en fait partie, sont les cathédrales qui étaient le siège de l'évêque au moment de la séparation entre l'Église et l'État. Et donc vous avez des cathédrales actuellement siège d'un évêché qui ne sont pas des cathédrales au sens de la loi, et d'autres qui ne le sont, qui sont toujours des cathédrales au sens de la loi, mais qui ne sont plus des sièges d'évêques.
Enfin, il y a des évêques qui sont titulaires de plusieurs diocèses, Saint-Malo, Dole, ça fait deux cathédrales.
Oui, mais encore une fois, on a figé le paysage.
3.
Oui, on a figé le paysage des cathédrales à une certaine date. Donc, il y a des cathédrales comme Évry, par exemple, qui ne sont pas des cathédrales au sens de la séparation. Et Notre-Dame, elle, est à la fois une cathédrale, la cathédrale, le siège de l'archevêché de Paris, et une cathédrale au sens de l'État.
Lisez, il est temps, parce qu'il a 20 ans ce livre, Le Mobilier National de Laurence Cosset, où un de vos prédécesseurs, directeur du patrimoine, qui porte le joli nom de Jean Léger Tuffaut, a tellement de soucis avec toutes les cathédrales qu'il décide de procéder à un programme d'épuration des cathédrales. Il va sélectionner celles qui doivent être gardées et celles qui peuvent être vendues. Alors, les soucis avec les cathédrales, ils tiennent...
No comment.
Non, j'ai noté à beaucoup de raisons. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait des vitraux, les vitraux? On n'a pas beaucoup entendu Jacques Lang jusqu'ici.
On ne peut pas demander à l'État de se croiser les bras. Et je tiens à vous dire qu'à propos simplement de la restauration, l'État n'a pas encore accompli son devoir, c'est-à-dire la réinstallation de l'ensemble des vitraux qui avaient été déposés lors de la dernière guerre mondiale. Aujourd'hui encore se trouvent entassés pour beaucoup d'églises ou de lieux religieux des vitraux qui n'ont pas été réinstallés. Donc, il est normal que la puissance publique active et au contraire, je l'espère, puisse financer l'ensemble de ces remises en place et restaurations. Pour l'art contemporain, notre règle, vous savez, elle est simple. Multiplier les chances, faire appel aux talents les plus divers. Pour Nevers, par exemple, nous avons mis en place un jury très largement ouvert qui a mis en concours 30 créateurs vivants. Et j'espère que les meilleurs l'emporteront et que nous pourrons là offrir aux visiteurs des vitrails de haute qualité, en même temps qu'ils auront été choisis de manière indépendante.
Ah, là, on introduit de la nouveauté dans une cathédrale quand une commande publique comme celle de Nevers, qui concernait 1000 mètres carrés de vitraux, intervient.
Oui, mais ça, c'est les remplaçants de vitraux détruits. Les vitraux déposés, normalement, les vitraux sauvés sont reposés, comme le dit d'ailleurs Jacques Lang. Le programme de Nevers a été un programme très important. Alors, en fait, plusieurs artistes ont été choisis, je crois 5, il me semble.
Alberola, Honegger, Rouen, Hubach, Viala.
Et Lupertz, qui a disparu dans votre liste. Donc ça faisait 6.
Mais Hubach, il était du début du programme, parce que ça a duré 30 ans cette affaire.
Oui, et il y y a eu donc cette commande assez exceptionnelle, avec des réalisations tout à fait remarquables, mais il ne faut pas oublier que les vitraux jouent un rôle à la fois architectural, parce qu'ils diffusent la lumière, et liturgique. C'est un programme liturgique, les vitraux. Et là, nous avons eu un problème sur l'une de ces commandes, celle de Marcus Lüpperg et Alfred Pacman, qui était délégué aux arts plastiques, et moi-même, qui était directrice du patrimoine, parce que nous travaillons en symbiose. La délégation aux arts plastiques fait la commande et le patrimoine la réalise, la finance et l'installe. Nous avons eu une objection de l'évêque de Nevers sur le fait que le choix fait par l'artiste du sujet de ces vitraux qui avaient été présentés à la fois à l'évêque et à l'État heurtait le principe suivant lequel les vitraux de l'axe du cœur, qui était l'endroit où les vitraux de Lüpperg devaient être installés, doivent représenter non pas la mort, comme le proposait Lüpperg, qui s'est très inspiré par la Shoah, donc il avait fait une magnifique réalisation, les cartons étaient sublimes, mais heurtait le principe liturgique suivant lequel, en fait, même si c'est derrière le grand crucifix, qui est le Christ mort, c'est la résurrection et la vie. Et donc, nous avons dû renoncer à installer ces vitraux. Ça montre la difficulté, dans une cathédrale, de marier les deux questions, la propriété de l'État, le côté patrimonial, mais aussi, c'est un lieu de culte.
Et l'évêque est affectataire.
L'évêque est affectataire. Tout ce qui regarde le culte ne regarde pas l'État. Et donc là, on doit compromettre entre une commande motivée par des raisons esthétiques et la réponse du clergé.
Il va bien falloir entendre, dans la restauration de Notre-Dame, le point de vue de l'évêque et le point de vue du clergé.
Inévitablement, le point de vue de l'évêque doit être pris en compte. Alors ça dépend de quoi on parle. Il ne sera pas pris en compte sur les moyens techniques de restaurer, de conserver, etc. Mais tout ce qui peut avoir une dimension liturgique, qui peut créer une difficulté avec le rôle liturgique de la cathédrale, qui est quand même essentiel, doit être discuté entre le clergé affectataire et l'État.
C'est-à-dire le mobilier ?
Alors il y a le mobilier du culte, mais ça, en principe, l'État s'en mêle pas, puisque c'est pas lui qui s'occupe du mobilier du culte, c'est le diocèse qui en est propriétaire, donc qui est commanditaire. Il ne s'en occupe que si ça cesse d'être mobilier pour devenir immobilier, ce qui est le cas des vitraux d'ailleurs, parce que ça s'incorpore dans l'immeuble, et là, il y a une appréciation portée par les services de l'État sur la compatibilité avec le lieu patrimonial.
Et le mobilier liturgique, il a brûlé pendant l'incendie ?
Alors, d'après l'exposé des motifs du projet de loi, non, parce que le projet de loi prévoit de ne pas restaurer, de ne pas consacrer les dons faits par les différents donateurs à la restauration du mobilier appartenant au diocèse. L'exposé des motifs dit que c'est 20% du mobilier de la cathédrale, mais que seuls les 80% du patrimoine, les 80% appartenant à l'État ont été touchés par l'incendie. C'est une espèce de miracle, assez étonnant. Mais faudrait vérifier si c'est vrai quand même.
Multiplication des dons, c'est un des aspects des miracles de Notre-Dame au moment de l'incendie du mois d'avril. C'est sur ce sujet et sur d'autres qu'intervient, questionné au Sénat par le sénateur Leleu, le ministre de la Culture, Franck Riester.
Madame la Présidente, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de la Culture. Et la France dispose des meilleurs spécialistes de la protection du patrimoine, y compris dans votre ministère. Je m'interroge sur le concours international d'architecture envisagé pour reconstruire la flèche de la cathédrale. Prenons garde, Monsieur le Ministre, qu'après avoir connu l'outrage des flammes, l'intégrité de Notre-Dame ne soit pas mise à mal par des innovations visant à la rendre, selon l'expression même du Président de la République, plus belle encore.
La parole est à Monsieur Franck Riester, ministre de la Culture.
Nous avons pris rapidement un certain nombre de dispositions, notamment à travers la loi que nous allons vous soumettre, pour faire en sorte d'avoir un dispositif, notamment fiscal, spécifique, pour accompagner l'engouement des Français, la générosité des Français, si la question concerne la loi. La générosité des Français pour Notre-Dame de Paris. Et nous avons mis un certain nombre de dispositifs qui nous permettront d'avoir le meilleur dispositif législatif pour restaurer de la meilleure façon possible Notre-Dame de Paris. Je suis le garant des principes fondamentaux de la préservation du patrimoine. Et vous pouvez compter sur moi pour, avec les équipes du ministère de la Culture, les architectes en chef des monuments historiques, les architectes des bâtiments de France, qui œuvrent en ce moment même sur Notre-Dame de Paris, à Notre-Dame de Paris, que tous les dispositifs qui visent à préserver le patrimoine seront respectés pour Notre-Dame de Paris. Mais, monsieur le sénateur, ne nous privons pas de dispositifs qui nous permettraient effectivement de restaurer Notre-Dame de Paris à la hauteur de ce qu'est Notre-Dame de Paris pour toute l'humanité.
Alors, si on série les questions et qu'on essaie de traduire en français le ministre de la Culture, dispositif fiscal. Bon, donc, il y aura 75% de déduction.
Pour les petits dons.
Pour les petits dons inférieurs à 1 000 euros.
Et puis, le projet de loi dit 1 000 euros, voilà, c'est parce que le Parlement décidera. Effectivement, ce sont les petits dons qui bénéficient d'une déduction majorée, puisque normalement, le droit commun, c'est 66%. Donc on passe à 75%.
Parce que j'ai oublié de dire que vous étiez présidente aussi de section au Conseil d'État. Le Conseil d'État est intervenu sur le texte de ce projet de loi en 9 articles quand on le lui a soumis.
Oui, comme tous les projets de loi, il a examiné ça dans une procédure d'urgence, à laquelle je n'ai pas participé, parce que je ne fais pas partie du dispositif d'urgence, qui est la commission permanente. Et effectivement, il a retouché le texte. Le gouvernement, d'ailleurs, a repris exactement le texte que lui a proposé le Conseil d'État, ce qui précise davantage sur la question, en particulier des dérogations.
Parce qu'il y a eu une loi sur le patrimoine en 2016, un projet de loi d'aujourd'hui doit tenir compte de cette loi et des principes de sauvegarde du patrimoine telle qu'elle les réénonce.
Oui, une loi peut être modifiée par une autre loi, mais ce n'est pas le dispositif du gouvernement. Le gouvernement n'a pas décidé de modifier le droit commun de la restauration des monuments historiques. Il propose... dans le cadre de la restauration de Notre-Dame et pour un objectif que la loi précise, le projet de loi précise, qui est de réaliser la restauration dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions de sécurité. Donc pour cet objectif d'intérêt général que personne ne discutera, faire vite pour éviter une dégradation accrue, dans les conditions de sécurité c'est évident, donc il demande au Parlement de l'autoriser à déroger par ordonnance, et pour le seul cas de Notre-Dame, un certain nombre de dispositions législatives, un grand nombre de dispositions législatives. Mais le projet tel qu'il est sorti du Conseil d'État précise que c'est dans la mesure strictement nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés par la loi, donc les meilleurs délais, les bonnes conditions de sécurité. Moyennant quoi, on peut déroger à beaucoup de textes.
Vous aurez noté que la question du sénateur Leleux, posée à Franck Riester, est comme dictée par la pétition consignée 1170 hommes et femmes de l'art qui manifestent leur inquiétude face au dessaisissement d'un certain nombre de professions spécialisées.
Pour l'instant, personne n'est dessaisi. Ce sont bien les architectes, l'architecte en chef compétent, les entreprises, les services de l'État qui interviennent pour mettre la cathédrale en sécurité. Ce qui est en cause, c'est l'annonce, je crois, du recours à un concours international d'architecture pour décider du parti de restauration. Alors là, c'est effectivement une procédure inhabituelle, puisque normalement, sur le patrimoine classé, appartenant à l'État, interviennent l'architecte en charge, qui est Monsieur Villeneuve, et les services de l'État. Alors là, on a un établissement public qui va intervenir. Ça, c'est pas sans précédent, on l'a déjà vu. C'est le cas du Grand Louvre. Le Louvre était un établissement public, était aussi un monument classé appartenant à l'État. Mais dans le cas du Louvre, je l'ai déjà dit, dans le cas de la reconfiguration du Louvre, l'architecte chargé du monument est bien intervenu. Il a été associé à un autre architecte, mais qui n'a pas été recruté par concours, mais choisi par le gouvernement.
Paye n'a pas été recruté par concours.
Il n'y a pas eu de concours pour le Louvre, parce que c'est un peu compliqué compte tenu du fait qu'il y a un architecte compétent normalement. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est si les futures dérogations, puisque ce n'est pas la loi actuellement discutée au Parlement qui dérogera, c'est les ordonnances futures qui seront présentées à nouveau pour avis au Conseil d'État et adoptées en Conseil des ministres, puis ensuite mises en œuvre avant d'être ratifiées par le Parlement. Donc on verra dans le contenu des ordonnances le dispositif réel adopté par le gouvernement. Pour l'instant, on ne sait simplement ce qu'il pourrait envisager de faire.
On pourrait laisser la conclusion à Paul Thibault qui a fait un très beau papier dans le Figaro. Au point bas de la ville, la cathédrale attend, elle reçoit, elle ne proclame pas. La force exceptionnelle de ce bâtiment, c'est de ne pas en faire trop et de s'imposer d'autant plus. Merci à vous, Marie-Yvonne de Saint-Pulgent. Cette émission a été préparée par Frédéric Martin, Franck Olivard, Adèle Caïto, Ilinka Negudesco, la réalisation Valérie Aestaray et à la technique Michel Pézikian.